RFI minuit à Paris, 23h en temps universel.
Mathis Limano.
Et à la une, les funérailles d'Hassan Nasrallah au Liban. Des centaines de milliers de soutiens réunis ce dimanche pour un dernier hommage au chef emblématique du Hezbollah, mort dans une frappe israélienne en novembre dernier. Devant une marée humaine, son successeur a juré de poursuivre la lutte contre Israël. En Allemagne, victoire des conservateurs aux législatives anticipées. La CDU est arrivée en tête avec plus de 28% des suffrages. Son président, Friedrich Merz, devrait devenir le nouveau chancelier. Le scrutin était marqué par une percée historique de la formation d'extrême droite AFD. Et puis en France, outre les animaux et les produits du terroir, le salon de l'agriculture est aussi l'occasion, vous l'entendrez, de questionner le métier. Repoussé plusieurs fois en raison de la présence militaire israélienne au Liban, les funérailles d'Hassan Nasrallah ont finalement eu lieu ce dimanche à Beyrouth. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé vers la banlieue sud. Des centaines de milliers de personnes, portraits de l'ex-leader et drapeau du Hezbollah à la main. Un vrai test de popularité pour le parti chiite, très affaibli par la guerre contre Israël. Sophie Guignon, vous avez pu assister à ces funérailles qui marquent un tournant pour le Liban.
C'est une véritable page qui se tourne dans l'histoire du Liban. Hassan Nasrallah a eu droit à des funérailles populaires dignes d'un chef d'État. Des centaines de milliers de Libanais ont afflué de la capitale libanaise, de la vallée de la Beka, mais aussi du sud du Liban, des régions très impactées par la guerre. Le parti chiite a voulu montrer à travers ses funérailles que même s'il est affaibli par la perte de son leader historique, de nombreux combattants, mais aussi par les nombreuses destructions dues à la guerre, il a toujours une assise populaire. Certains Libanais, comme Rania Rahal, sont venus dès l'aube pour avoir une chance d'entrer dans la cité sportive où s'est tenue la cérémonie d'hommage à Hassan Nasrallah. La jeune femme vient de Nabatieh, une ville du sud du Liban dévastée par les bombardements israéliens. Je vous propose de l'écouter.
J'aurais fait n'importe quoi pour entrer. Je suis très triste. Je porterai cette tristesse à jamais. C'est une immense perte. Malheureusement, il n'y aura pas de leader de son calibre avant 50 ans. C'était un chef exceptionnel. On va continuer à se battre car Israël ne comprend que la force.
Dans son discours, le successeur de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem, a dit que le Liban faisait, je cite, « face à une nouvelle occupation, car Israël conserve des positions dans le sud du Liban ». De quoi continuer à fédérer ses partisans pour le Hezbollah. Pendant la cérémonie, l'aviation israélienne a survolé par deux fois la cité sportive à très basse altitude pour intimider la foule. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Israël se dit prêt à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza. La première phase du cessez-le-feu est censée prendre fin le 1er mars, mais les négociations prévues pour la suite n'ont toujours pas démarré. Et la décision israélienne de ne pas relâcher, comme convenu, plus de 600 prisonniers palestiniens fragilise un peu plus la suite du processus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pointe du doigt les cérémonies humiliantes autour des libérations d'otages à Gaza. Le Hamas, lui, dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, sera cette semaine dans la région. Objectif, faire progresser les négociations sur la suite de la trêve. En Allemagne, Friedrich Merz veut un gouvernement aussi vite que possible pour faire face aux défis internationaux. Les conservateurs arrivent en tête des élections législatives devant l'AFD, le parti d'extrême droite qui réalise toutefois le meilleur score de son histoire. Olaf Scholz et le parti social-démocrate essuient eux un revers historique. Le chancelier allemand qui dit assumer la responsabilité d'une amère défaite. On l'écoute.
Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser.
Les résultats étaient meilleurs la dernière fois et j'en étais responsable. Cette fois, les résultats sont mauvais et j'en porte également la responsabilité, je veux le dire ici. Je veux également féliciter la CDU-CSU et Friedrich Merz qui a pour mission de constituer le prochain gouvernement. Félicitations pour les résultats des élections.
Herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis.
Je vais effectuer mon mandat jusqu'à la fin. Maintenant, c'est aux autres de se mettre d'accord pour constituer un gouvernement.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Berlin, Julien Chavannes. Friedrich Merz, qui devrait devenir le nouveau chancelier allemand, il a appelé l'Europe à se renforcer jusqu'à son indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est en route pour Washington. Le président français va plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine auprès de Donald Trump, alors que ce lundi marque les 3 ans du début de l'agression russe. L'Ukraine où il est impossible de reprendre le cours d'une vie normale, du moins dans les villages qui ont connu l'occupation près de la ligne de front. Les habitants qui ont fui ne sont que très peu revenus, de peur des bombardements et des mines dans les sous-sols. Reportage près de Kharkiv, dans le village fantôme de Kamianka, où s'est rendue notre correspondante Emmanuelle Chaz.
À Kamianka, près d'Izioum, il ne reste presque aucun des 1200 habitants que comptait le village avant-guerre. Nous rencontrons Serhiy et Irina, un couple d'une 60aine d'années, revenu après l'occupation russe après avoir trouvé refuge à Poltava, dans le centre du pays. Est-ce que vous avez de la famille ici ?
Non, il n'y a plus que nous deux maintenant. L'un de nos fils est à l'étranger et l'autre à Poltava.
Serhiy et Irina vivent dans une seule pièce d'un préfabriqué construit par une ONG internationale. Il y a un poêle, une bouilloire, un lit de fortune et un petit réfrigérateur. École, centre culturel, administration, église et maison, tout à Kamianka a été détruit. C'est au milieu des ruines qu'Irina et Serhiy sont revenus et sans travail, ils dépendent entièrement de l'aide humanitaire.
Oui, on reçoit de l'aide.
Chauffage, électricité,
oui.
Eau.
Oui, aussi, les ONG nous ont aidés autant que possible. Et maintenant, on reçoit de l'aide humanitaire une fois par mois.
En plus de la destruction, les mines antipersonnelles infestent le village, qu'il s'agisse des champs, des maisons ou des bords de route. Est-ce qu'il y a beaucoup de mines ici ?
Oui, beaucoup.
Oui, quand on marche, on est juste... comment dire ? Ils ont déminé la route, mais pas à gauche ni à droite des chemins.
Kamianka, qui dépend du district d'Izioum, ne sera pas reconstruite sitôt. Mais Irina et Serhiy sont désemparés. Ils n'ont nulle part où aller et préfèrent rester chez eux, malgré le danger des mines, des bombardements et d'une nouvelle occupation russe. Emmanuel Chaz, Kamianka, RFI.
L'occupation russe qui a débuté il y a 3 ans, jour pour jour, le 24 février 2022. Et à cette occasion, RFI se mobilise, matinale en partie délocalisée à Kiev ce lundi, autour d'Andréan Mellard. Rendez-vous à 7h, temps universel. Le pape François, toujours dans un état critique, annonce du Vatican dans son dernier bulletin de santé publié dimanche soir. François continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Il n'a pas subi de nouvelles crises respiratoires depuis samedi soir et reste conscient. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé pour une pneumonie depuis le 14 février dans un hôpital de Rome. La capitale italienne où, après inspection par les forces de l'ordre, le vol d'American Airlines 292 est autorisé à repartir. Les termes de la compagnie aérienne après qu'un de leurs appareils ait été dérouté vers l'aéroport de Rome, escorté par l'armée de l'air italienne. Il reliait New York à New Delhi, mais une alerte à la bombe a contraint l'appareil à changer de route. Les 199 passagers ont été débarqués et ont reçu de l'assistance, a précisé American Airlines. L'appareil devrait reprendre sa route ce lundi vers sa destination New Delhi. Et puis en France, le Salon international de l'agriculture se poursuit pour encore une semaine. 600 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les produits du terroir et échanger avec les cultivateurs et les éleveurs sur leur métier. Aujourd'hui, pour 3 agriculteurs qui partent à la retraite, on ne compte qu'un jeune qui s'installe. Mais certaines filières continuent de faire rêver les jeunes générations, à la grande surprise de leurs aînés. Amélie Beaucourt est partie à la rencontre de 2 bergers, l'un en formation, l'autre déjà installé.
Basile vient du Sud-Est, il a 17 ans et l'insouciance des jeunes gens passionnés. Il se voit déjà berger et tant pis si c'est compliqué.
Les cours de la vente du lait, de la vente des agneaux, tout ça, c'est pas en chute libre mais ça descend énormément. Il y a beaucoup moins de consommateurs, ça fait qu'il y a moins de demandes. Ça peut en freiner quelques-uns.
Mais vous, ça vous a pas refroidi ?
Et non, parce que c'est la passion des bêtes, être dedans depuis tout petit avec mon grand-père. Et c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je veux en faire mon futur métier.
Quelques enclos plus loin, Mathieu vient, lui, du Nord. Il a 41 ans et la sagesse des éleveurs expérimentés.
C'est 7 jours sur 7. Là, c'est les petits jeunes qui n'ont peut-être pas de ménage. Donc après, il faut partir en vacances, hein, dès qu'on a une femme et des enfants. Donc il y a beaucoup d'inconvénients, pas beaucoup d'avantages.
Mais vous pousseriez des jeunes à faire le métier que vous faites ?
Bah oui. Un gamin, il a 17 ans. Et il se lance dans le mouton, je lui ai dit vas-y fonce. Par contre, sache que tu vivras pas qu'avec tes moutons. Je suis même pas étonné, mais je suis surtout content qu'il y ait des gens, qu'il y ait des petits jeunes qui soient passionnés pour le faire. Donc la passion est là quand même.
Lui aussi a repris l'exploitation familiale quand il était jeune, mais il est aujourd'hui double actif. Il cumule l'élevage avec une autre activité professionnelle pour pouvoir vivre de cette passion.
Reportage Amélie Beaucourt.